Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Montpellier sur 104.7 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec un zoom sur l'appellation Irancy en Bourgogne. Une première question: pourquoi le goût est toujours relatif et variable? Évidemment, ça dépend parfois de nos humeurs. Une seconde question: c'est quoi un vin sensuel? Bon, trois petits points. Puis un vino quiz pour gagner jolis cadeaux. Rien à voir avec le côté sensuel. À mes côtés, Hélène Pio et Zélina Jaboulet-Verchère. Elles sont super. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Tout va bien, Zélina?
Tout va bien.
C'est votre première chez nous?
Oui.
Vous êtes émue?
Très.
Très. Et puis alors en face, il y a de quoi avoir une grande émotion.
Eh oui.
Avec un E, Philippe Forbach et David Cobol. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, qu'est-ce qu'on fait? On la garde, Zélina, ou on ne la garde pas? Bon, on va voir le début de l'émission, comment ça va se passer. Quoi. Bon, alors Hélène, vous qui êtes journaliste au magazine Régal, on va commencer par accueillir un président.
Absolument.
Et pas n'importe quel président.
Le président de la Coupe du meilleur pot, Bruno Carlian. Bonjour Bruno.
On a du pot là.
Hein. N'est-ce pas?
Absolument. Alors la Coupe du meilleur pot, vous allez nous expliquer ce que c'est. En tout cas, on peut déjà dire qu'elle a été attribuée il y a tout juste un mois au Petit Vendôme. Bon, allez, on déflore le sujet. C'est le meilleur bistrot parisien 2019?
Bah, c'est ce que le jury y a pensé, effectivement. Un vrai bistrot parisien dans un endroit improbable, puisque c'est à côté de la place Vendôme, dans un endroit où on n'imagine pas trouver des petits bistrots d'Apa Caro.
C'est très cher là-bas. Hein.
Très grand quartier de luxe parisien.
Vous voulez un petit diamant, peut-être, Hélène, Zélina, bah,
écoutez,
là, pour Noël?
J'hésitais entre Chaumet, je sais pas.
On cite pas trop de marques, mais elles sont toutes bien là-bas.
C'est ça, bon.
Ouais, alors, revenons. Chaumet. Alors, Bruno,
revenons au Petit Vendôme.
Et donc, juste à côté de ce quartier du luxe incroyable, vous avez trouvé un bar à vin. Franchement, on a l'impression que c'est les tontons flingueurs. Des tables en formica, du néon, un coup de rouge sur le comptoir, une baguette fraîche.
Il y a de la betterave et de la pomme aussi.
Il y en a aussi. Ouais. Une baguette fraîche, un coup de bleu d'Auvergne. Et c'est juste merveilleux.
Et
le Petit Vendôme.
C'est un des endroits où on mange les meilleures casse-croûtes de Paris.
Il y a des rillettes.
Il y a des rillettes.
Et des rillons.
Et des rillons.
Et il en passe 200 par jour. Il y a la queue devant son bistrot.
Alors là, c'est où exactement déjà, Hélène? Parce que là, on a envie d'y aller là.
Alors, donc le Petit Vendôme, 8 rue des Capucines, dans le 2e arrondissement.
À Paris donc.
À Paris. C'est fermé le samedi soir et le dimanche. Autrement, c'est quand vous voulez.
D'accord. Alors, cette académie, comment, David, oui?
Moi, je dois poser une petite objection.
Mais restez en
vie, j'ai eu une très mauvaise expérience dans ce bistrot. J'étais très mal reçu. On m'a servi un vin qui était flingué. La baguette était bonne, certes, mais j'allais aussi pour un verre de vin avec la baguette. C'était il y a quelques années, peut-être qu'ils ont changé
la propriété. Autrement, ils n'ont pas eu.
Mais franchement, j'ai trouvé ça déplorable.
Alors, il faut absolument y retourner, parce que Gilles Cossade et le Gonel Malière, vraiment, vous accueilleront à bras ouverts, même si vous êtes anglais. et à mon avis, je ne sais pas, ça devait être un jour de rugby, j'en sais rien. Mais,
ou c'était avant leur arrivée. Donc, ils sont arrivés il y a 5 ans, à peu près.
Ah ben voilà.
Ils sont de très bons professionnels. Donc,
voilà, je pense que.
Ce serait bien.
Comment ça marche ce prix? Il y a un jury, vous êtes entre copains là?
Entre copains, disons, qui cherchons activement les bistrots. Donc c'est l'Académie Rabelais, un jury qui est au sein de l'Académie Rabelais qui remet ce prix.
Vous nous racontez un petit peu l'Académie Rabelais?
Alors en quelques mots, ça va être difficile parce que ça a été créé en 1948, donc après-guerre, par des journalistes parisiens et lyonnais qui se sont retrouvés après-guerre dans le Beaujolais, qui ont fondé cette académie à Château-Thivin, qui est une belle institution du Beaujolais.
On
qui
peut fait citer, de très bons vins.
On peut citer Henri Clojouve, on peut citer Pierre Cise.
Ils avaient eu du nez à l'époque de choisir ce château pour créer. Et donc nous sommes toujours reçus par la famille Geoffrey et par les descendants de la famille Geoffrey qui nous reçoivent admirablement toujours chaque année.
Donc cette Académie Rabelais a été effectivement présidée par les plus grands chroniqueurs gastronomiques, je disais Henri Clojouve. Bon, il y a eu Michel Piau aussi, petit clin d'œil familial. C'était la Coupe
qui
du meilleur Piau.
Qui était mon prédécesseur à la présidence de la Coupe du meilleur.
Absolument. Et puis donc Bruno, vous avez pris la suite. Et donc comment vous vous y prenez chaque année pour chercher le meilleur bistrot à vin de Paris? Il y en a beaucoup quand même.
Il y en a beaucoup. Alors nos critères sont un peu particuliers. Il faut que ce soit ouvert toute la journée, ce qui est quand même de moins en moins le cas. C'est beaucoup plus maintenant des restaurants ou des bars à vin, mais qui ont des horaires d'ouverture et de fermeture
dans la journée.
Oui. Il faut qu'il y ait du service au comptoir, ce qui là aussi n'est plus forcément le cas. Donc du service de vin au verre, ça par contre, maintenant c'est assez courant. Et que ce soit des endroits qui soient abordables. Il faut qu'il y ait des vins qui soient à des prix abordables, ce qui là aussi n'est pas toujours le cas. Donc en fait, la liste et la shortlist est souvent assez limitée.
Donc il y a
limitée.
Combien chaque année de bistrots qui sont visités? Vous êtes un peu le Michelin là, du bistrot.
Il y a une quinzaine, on en fait une quinzaine à peu près. D'accord. Sachant qu'ils sont tous quand même connus pour la plupart dans leur...
Et vous allez chercher
notamment
des nouveaux,
par les fournisseurs.
Des nouveaux ou pas? Parce que c'est bien de faire tourner les 15 copains là, mais...
On essaye, malheureusement, des bistrots nouveaux, ils ne s'en créent pas forcément. On va plutôt reprendre des affaires qui ont une histoire.
D'accord.
Comme le Petit Vendôme, il a une histoire très ancienne. Mais on en a trouvé, notamment celui que nous avons remis l'année dernière, au Verre à Vin, que je vous recommande, Gare de Lyon, qui est un très bon professionnel, et puis des personnages truculents, parce que c'est aussi...
Mais sûr,
on ne remet pas un bistrot, on remet une personne. Au patron,
ça vous plaît, là, celui d'en passé, voilà. David, vous n'avez pas encore crié?
Non, pas du tout, non, mais je tire mon chapeau. Effectivement, tous ces critères sont réunis, et il se trouve que mon bistrot voisin, les Colonnes à la mairie d'ici, est un ancien lauréat, le patron est truculent, les vins sont très bons,
donc
il y a un comptoir, la bouffe est bonne et abordable.
Et on y voit souvent excellent. L'équipe de la RVF.
Oui,
aussi. Alors au Petit Vendôme, justement, ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qu'on y boit. Donc moi, j'ai noté le Morgon de Foyard, le Côte de Brouilly de Lafond, en Languedoc, le Château de Coussergues.
Il n'y a pas de Roussillon,
Si, il y a des Côtes du Roussillon aussi, je vous rassure. Les Croisants Métages de la cave de Tain, les Côtes du Rhône de Laurent Brusset. Vous avez un coup de cœur. Est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de Beaujolais? Ça marche comment?
Non, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de Beaujolais, mais historiquement, il faut au moins qu'il y ait un Beaujolais. Oui, absolument.
D'accord. Donc,
c'est au pot, c'est à la bouteille, c'est quoi d'ailleurs la consommation?
Alors, non, c'est au verre. Aujourd'hui, c'est au verre. Alors, vous savez, dans les critères, on en a quand même abandonné au moins un. Oui. Il fallait que ce soit des vins tirés du fût.
Mais oui, c'est ça.
aujourd'hui, n'existe plus.
Voilà. Et alors effectivement, on parlait donc de ce fameux sandwich que même David Cobold a aimé.
Casse-croûte, pas sandwich.
Casse-croûte.
Oh là, votre père vous aurait repris.
Absolument. Je, papa, si tu m'entends. mais il est trop tard pour me déshériter. Alors, pour ce qui est du casse-croûte, on a donc des casse-croûtes à partir de 5 €. Hein, c'est très raisonnable. Au bleu d'Auvergne, au saucisson à l'ail, un jambon de pays extraordinaire. Voilà, on a vraiment des vrais produits. Mais alors, gardez de la place. Pour le dessert, il y a un millefeuille et une île flottante qui sont quand même super aussi. Et puis alors, si vous voulez passer à table, c'est possible aussi. Hein, escargot de Bourgogne, fromage de tête.
Ça y est, on a faim.
Voilà, on peut...
c'est l'heure aussi. Hein,
ouais. On peut faire un truc un peu costaud si on a envie. Hein. Franchement, le Petit Vendôme, foncez,
aller,
arrêtez les diamants et achetez-vous un casse-croûte. Franchement, je trouve que l'investissement à terme est bien meilleur.
Oui, puis ça permet de... Et donc là, chaque année, il y a le prix qui est remis. Il y a d'autres initiatives par l'Académie Rabelais?
Alors, l'Académie Rabelais remet aussi un prix littéraire. Mais la Coupe du meilleur pot aussi est réputée pour la remise du pot, qui donne lieu à une très grande fête populaire, et ça a encore été une grosse, grosse fête dans Paris, qui sont de plus en plus malheureusement compliquées à organiser.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Hélène Pio. Merci également à vous, Bruno Carlian. Une vidéo sur Radio retrouve Philippe Orbach, propriétaire du bistrot, justement, du sommelier à Paris, la boulevard Haussmann. Vous n'avez jamais récompensé Philippe?
Est-ce qu'il est ouvert toute la journée?
Voilà.
Il n'a pas de comptoir.
On va vous donner un double des clés, et comme ça sera ouvert tout le temps. Philippe, direction la Bourgogne, une Bourgogne assez originale.
Oui, le nord de la Bourgogne, très connu pour ses vins blancs, on n'est pas très loin de Chablis, à côté d'Auxerre, et une petite appellation qui s'appelle Irancy. Mmh. C'est une appellation un peu confidentielle, certes, ancienne déjà.
Où il y a aussi un bon bistrot, d'ailleurs.
Il y a de très bons bistrots, on va pouvoir peut-être les évoquer ensemble tout à l'heure, notamment le Soufflot très belle table. Mais c'est une appellation, oui, je disais ancienne, parce que déjà à l'époque des ducs de Bourgogne, c'était une appellation réputée. Il y a eu d'ailleurs des guerres fratricides entre les Huguenots, les Bourguignons et les autres dans ces endroits-là, parce qu'on se battait pour... Non pas pour aller boire un coup, mais simplement pour ces terres qui étaient déjà très fructueuses à cette époque.
Exactement. Et pour une fois, les Anglais n'étaient pas impliqués, du tout.
Ça, oui, c'était juste fratricide, c'était pas un glanticide. C'est ça. Voilà. Et donc, cette appellation donc, produit uniquement des vins rosés et rouges, surtout rouges d'ailleurs, un peu rosés. pas de blanc, même s'il y a beaucoup de blanc dans le coin, hein, mais pas pour l'appellation Irancier en tout cas, à partir du Pinot Noir, qu'on peut imaginer être le grand cépage bourguignon, mais également d'un cépage qui est plus rare, qui s'appelle le César.
Le César.
Qui fait vraiment effectivement
partie
de l'identité.
Et ça, c'est pour le blanc, le César.
C'est uniquement, c'est un cépage rouge, donc on peut en faire essentiellement du vin rouge, mais on peut le produire aussi pour faire des rosés. Alors l'esprit Irancier, ce sont des vins à la fois très accessibles en prix globalement, hein, surtout pour la Bourgogne. Voilà, autour de 10-15 euros, on peut avoir des vins d'Irancier sans aucun souci. Ce sont des vins qui correspondent bien dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'on cherche surtout à cette époque de l'année une certaine fraîcheur, beaucoup de fruits, de la gourmandise. Et finalement, dans ces contrées un petit peu au nord de la Bourgogne, on a cette possibilité d'avoir ce style et cet équilibre de vin. Les rosés permettent d'être une bonne alternative. On évoque souvent ça autour de cette table, hein. Avec nos amis, c'est une bonne alternative à ce qui se passe plus au sud. Et les rosés, effectivement, un peu plus au nord, on en parlait il n'y a pas longtemps, la Loire, d'autres coins de la Bourgogne, l'Alsace aussi, sont effectivement très intéressants pour leur réserve de fraîcheur par rapport au vin du sud, pour lequel on a tendance parfois à vendanger un peu tôt pour garder une acidité qui garde un peu trop de mordant, peut-être, en tout cas qui paraît un petit peu artificiel par rapport à l'équilibre que l'on recherche dans tous les vins, y compris dans les rosés. Et là, on peut avoir effectivement ce style-là. Irancier, c'est un joli petit village en plus, avec une certaine quiétude. On évoquait Soufflot, le bistrot, mais on peut évoquer Soufflot aussi, l'architecte, celui qui nous a permis de construire notamment le Panthéon et autres monuments parisiens. Effectivement, il est né à Irancier.
Ah oui.
Et exactement, il y a la rue Soufflot, la place Soufflot.
Vous nous rappelez la date de naissance, etc. Philippe, peut-être.
Je ne l'ai plus en tête, mais en tout cas, je l'ai en tête. C'est 1713. Exactement.
Très bien. Et quel jour,
la date de naissance. voilà. Et je chercherai, mais vous n'allez pas le chercher. C'est peut-être la question d'un prochain quiz, c'est ça.
Exactement. Ça, Charlotte Vitou.
Bah, exactement. Voilà. En tout cas, c'est un personnage célèbre et il est originaire de ce petit village aussi. L'autre spécialité du coin sont les cerisiers. Les cerises d'Irancier, c'est assez intéressant.
Mais avec
aussi
un petit peu d'alcool ou
alors
comme
on
ça
peut,
là.
On peut, effectivement.
Un peu comme Irène Pio direct.
Exactement. Alors, si vous continuez comme ça, il va falloir souffler dans le ballon quand vous sortez du bistrot.
Exactement. Alors, quelques vignerons intéressants, parce qu'il ne faut pas les louper. Hein. Le Guazzo, qui reste quand même une des grandes références. Anita et Stéphanie Collino, qui fait partie aussi des gens qui ont redonné un peu de souffle à cette appellation. Puis, il y a des producteurs du coin, style La Roche, Laurent Cabin, Lamblin, Brocard et même la Chablisienne d'ailleurs, qui est une cave dont on évoque souvent les qualités, produisent un peu de ce vin d'Irancier franchement agréable et d'un très bon rapport.
Allez, coup de cœur.
Voilà.
Merci beaucoup Philippe Arbrac, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin de caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine. On parlera du goût du vin et de la définition, et ça c'est assez étonnant, d'un vin sans...
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas de la Madeleine à Paris pour cette émission en public et délocalisée avec David Cobold. Vous qui avez cofondé l'Académie du vin de Paris, on parle d'un sujet étonnant, le goût du vin.
Bah, oui.
Est-ce qu'il est permanent, matin, midi, soir?
Ben non, justement.
Vous soyez heureux ou triste?
Non, il n'est pas permanent, il n'est pas absolu, il est plus que relatif. Il est relatif à beaucoup de choses. Mm-hmm. Déjà au vin, hein, la diversité des vins, on le connaît, on en parle à longueur d'année à cette antenne, et c'est tant mieux, c'est ce qui rend ce produit si fascinant, si intéressant en permanence. Il évolue tout le temps. Mais je parlerai plutôt de notre perception du goût. Nous sommes tous différents. On n'a pas la même couleur d'yeux, de cheveux, de taille, de format. On est plus ou moins là.
Eh ben, Hélène, c'est pareil. Hélène Pio, vous ne la voyez pas, mais c'est 2,04 m.
C'est bravo, ça, Hélène. Mais c'est sous le boisseau.
Donc, oui, bien en dessous. Hein. Et puis, nous n'avons pas les mêmes organes réceptifs, olfactifs. Donc, sur le plan olfactif, quand on sent un vin, les uns sont insensibles à telle et telle molécule aromatique et les autres à d'autres et à des degrés différents dans chaque cas. C'est-à-dire que certains, par exemple, on va prendre un goût désagréable ou une odeur désagréable, le goût du bouchon, qui est un goût de moisi, formé par le trichloranésol 2,4-6. Bon, cette molécule qui sent un peu le moisi, le pourri, il y a des gens qui sont hypersensibles, d'autres qui le sont moins. Pareil pour le sulfite.
Ouais, j'ai même connu des gens qui aimaient ça parce qu'ils disaient oh, « c'est super, ça sent les champignons ».
Ben oui, ben voilà.
Ça sent quelque chose.
Ça existe. Donc,
alors ça, c'est déjà pour les choses désagréables, mais dans les choses plaisantes, il en va de même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont sentir la fraise sur un même vin. Vous le passez au voisin, il va sentir la framboise. Un troisième va sentir la prune. Au fait, c'est ni la fraise, ni la framboise, ni la prune, mais c'est des choses qui évoquent la fraise ou la framboise et la prune. Donc déjà, on note la fragilité de cette approche du vin, le côté extrêmement personnel. Hein. Le goût est personnel. In fine, lorsqu'on parle du goût d'un vin, on parle de soi. On parle de soi-même, de son appréciation. Et son appréciation, varie en fonction de son humeur, du moment de la journée, l'état de santé, mental et physique. Si on est en forme ou pas en forme, on ne va pas goûter de la même manière. Et puis, on aura des variables de l'ordre de l'environnement, c'est-à-dire que la luminosité va influer sur notre perception. Philippe Forpac le sait très bien, lui qui, dans son bistrot, peut faire varier la luminosité sur un vin, et ben ça change la sensibilité et les perceptions sensorielles dans leur ensemble.
Exactement. Il y a une science d'ailleurs qui s'appelle la synesthésie.
La synesthésie,
qui est
oui.
mise en valeur effectivement ces différentes.
C'est le mélange des sens.
Perception émotionnelle.
Est-ce qu'on peut transformer, donc, suivant les émotions, un vin que vous trouvez pas bon en vin excellent? Est-ce que la fourchette c'est quoi?
Alors ça je ne sais pas. En tout cas on peut, et il y a d'autres facteurs. Le verre par exemple. Oui. Vous servez le même vin, aussi bon ou aussi mauvais soit-il, dans un gobelet épais ou un verre ballon, et ensuite dans un verre très fin, votre perception va être amendée par l'appréciation que vous donnez au verre. C'est-à-dire, si le verre est fin, vous allez imaginer que le vin va l'être aussi.
D'accord, donc c'est l'interprétation, Philippe, ou du factuel? Ou les deux?
C'est un peu les deux.
C'est
hein.
un
même,
peu les
même,
deux.
Même la forme de la bouteille influence.
Ah oui.
un joli,
L'Alsace,
vin,
par exemple, parce qu'on tenait un peu élancé comme ça, ça évoque quoi?
Ça évoque la fraîcheur, ça évoque de l'altitude, ça évoque...
Ça, voilà, c'est des impressions aussi liées à l'expérience, à la pratique, parce qu'on a goûté beaucoup de vins frais dans une bouteille longue. Alors, Frédéric Brochet, qui vient parfois à cette antenne, a mené l'expérience suivante à l'Université de Bordeaux. Il a servi le même vin dans trois flacons différents. Un flacon entrée de gamme, une bouteille avec étiquette, une bouteille milieu de gamme et un grand cru.
Il l'aurait mis en carafe, ça aurait été intéressant aussi.
Et les notations sur ce vin se sont modifiées en s'améliorant au fur et à mesure qu'on montait en gamme.
Alors
que c'était le même vin. C'est-à-dire qu'on est influencé par des facteurs extérieurs. Mais je dirais que la manière de parler du vin est aussi très personnelle. On va essayer de traduire dans des paroles des sensations qui sont forcément abstraites, qui ne sont pas liées à la partie du cerveau qui gère la parole. Et du coup, on va inventer ou on va utiliser des codes. Il y a des habitudes, des codes, des pratiques. Un tel va appeler un vin minéral, moi je vais l'appeler acide.
Oui, oui.
Mais on signifie la même chose par cela.
Oui, après les habitudes, parce qu'on sait que vous aimez tel vin, quand on va boire un verre, vous allez aimer David parce que je sais que vous aimez ça. Quoi.
Oui, et dernière chose, on note les arômes qu'on aime. On met les arômes qu'on aime et en fonction de son expérience.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Là, j'avais par exemple une jeune fille chinoise dans un cours l'autre jour et je disais, bon, en général, ce cépage-là, et ça sent la fraise et la framboise. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que la fraise et la framboise?
Ah, il pourrait s'évaluer.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ça ne voulait absolument rien dire.
Qu'est-ce que vous en pensez, Zélina, par exemple? Partagez les propos de David ou pas?
Absolument, et c'est ce que je vais développer, en fait.
Mais
parce
oui.
que... De toute façon, effectivement, le terme, le contexte est tout à fait clé à tous les étages.
Ça conditionne
en fait.
Et ça. Et vous, Hélène?
Moi, j'en suis absolument convaincue. C'est vrai aussi d'ailleurs pour
mais
le thé et le café.
Mais c'est inquiétant pour le fond, non? Parce qu'une Dito Veritas, pas que ça. Il n'y a pas qu'une Dito Veritas.
Et pas que. Moi, j'ai fait l'essai aussi avec des thés et des cafés. Ça marche pareil. Hein. Vous prenez une tasse de bistrot toute pourrie, épaisse et tout, et une très jolie tasse en porcelaine ultra fine. Votre café, vous êtes
meilleur,
persuadé que c'est pas le même. Alors que si,
ouais,
à 100%.
Philippe,
non, c'est vrai.
Nous sommes des petites choses influençables.
De temps en temps, on goûte. Bon vin ou un bon café, on se dit c'est dommage que le verre soit pas encore
c'est
mieux.
C'est vrai aussi.
Oui, c'est ça. Dans l'autre sens aussi.
On peut s'apercevoir quand même de la qualité, mais c'est tellement optimisé.
David, pour conclure.
Pour conclure, il y a un autre aspect qu'on néglige aussi, c'est la parole du vin. La parole du vin est accaparée, qu'on le veuille ou non, par des gens qui ont l'expérience, le savoir, le sommelier, le journaliste, l'expert. Et ce sont des gens qui ont aussi la maîtrise de la parole. Donc ils ont tendance à formater, nous avons tendance à formater le discours sur le vin par notre expérience, par des mots codifiés où on s'en comprend plus ou moins bien d'ailleurs entre nous, mais pour le néophyte c'est parfois très compliqué,
très compliqué.
Et ça forme une barrière. Donc je dirais que le vin, c'est à la fois la perception individuelle, l'expérience qui joue beaucoup, mais aussi l'écoute de l'autre.
Merci David. Une vidéo sur Radio retrouve Zélina Jaboulet-Verchère, historienne, spécialiste du vin. Vous êtes aussi prof à Ferrandi, c'est ça?
Oui.
Et puis vous êtes président du jury des prix de l'OIV. C'est quoi l'OIV?
L'OIV, l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin.
Bon, alors aujourd'hui, et ça vous va très bien, on parle de sensualité. Vous êtes mignonne quand vous souriez.
J'ai cherché à évoquer cette notion de sensualité parce qu'on trouve souvent ça dans la presse. Partez à la découverte du plus sensuel des vignobles, sauf qu'il change tout le temps.
Des vignerons, des vignerons, il y en a quelques-uns, Hélène Piau, hein. Notamment
oui,
qu'on a les yeux bleus dans la vallée du Rhône. Non, il y en a quelques-uns que vous aimez bien.
J'ai une liste, si vous voulez.
Ouais, bon, ouais.
Alors j'ai regardé des synonymes, j'ai cherché des synonymes, et j'ai trouvé un grand nombre de synonymes qui sont en fait tous un peu différents. Voluptueux, paillard, polisson, orgiaque, léger, leste, animal, physique, sexy. Vous voyez, quand même une variation.
Et on parle toujours du vin et pas des vignerons. Là,
on parle de l'adjectif
sensuel. Ça dépend des horaires de dégustation aussi, peut-être.
Alors, je me suis dit que peut-être j'allais chercher chez mes compagnons du Moyen-Âge des termes qui se rapprocheraient un peu plus de nous. Et j'ai trouvé sapide, qu'on utilise peu.
Sapide.
Sapide, qui
vient du latin. Mot. J'aime beaucoup.
Qui vient de sapidus et qui a été, qui est passé en ancien français sous le terme de sade, rien à voir avec le marquis libidineux.
D'accord.
Et qui veut dire, qui évoque un caractère savoureux. Donc là, on se rapproche quand même de cette
les
idée.
Les Japonais utilisent le terme umami. Ça signifie exactement
umami.
La même
ça veut dire tout et rien umami en plus.
Umami,
c'est
pas une chose
très pratique.
Oui.
Et en fait, dans un texte de 1920, Le jeu de Saint-Nicolas, de Jean Baudel, les gens se délectent justement à l'annonce d'un vin qu'on dit sapide.
Ah oui.
Donc ça, c'est déjà une bonne annonce. Maintenant, il y a un autre terme aussi médiéval qu'on emploie un peu plus, qui est celui de friand.
Friand.
Ah, friand, ça s'utilise encore un petit peu. Oui, oui, oui.
Ouais. Alors, friand, au Moyen-Âge, c'est qui flatte le goût, d'accord, appétissant. Là, je trouve qu'on se rapproche de la sensualité, attirant. Et quand on parle des gens, on parle de gourmand, gourmet, concupissant, élégant, qui manifeste de vifs désirs, impatient, avide. Donc, vous voyez que la variabilité, quand même, en fonction des gens et en fonction de ce qu'on cherche, finalement.
Bien sûr.
Parce que la sensualité, c'est diffère, elle aussi, chez chacun. Donc, la première question, c'est celle de la couleur. Qu'est-ce qu'un vin sensuel? Est-il rouge ou est-il blanc?
C'est une bonne question. Ou rosé?
Ou rosé, hein.
Ou rosé, oui.
Faut plaisir. Ou orange, aujourd'hui. Ouais. Orange, oui. Jaune.
Jaune, enfin, oui. Exactement.
Alors, et orange, bleu, pour quelqu'un qui veut... Bleu. Mais alors, ça, pas forcément très, très sensuel. C'est autre chose.
Ah bah, c'est hyper sensuel.
Est-ce que le champagne, qui souvent est cité un exemple, est le plus sensuel des vins?
Ah, peut-être la forme de la bouteille, Philippe, dans, ou les bulles, non?
Mais ça dépend du message qu'on veut invoquer.
Exactement.
Et le message, justement, c'est celui, peut-être, d'une matière. Alors, la matière aussi, elle est intéressante. Au Moyen-Âge, j'ai trouvé aussi des mentions de velours.
De velours.
Il fait le velouset.
Oui, ça, c'est pas mal. Ça,
c'est pas mal. Un vin qui fait le velouset.
Fait le velouset.
Il fait le velouset.
Ou un vin qui... J'avais entendu un jour, au tout début de l'époque de nos films...
Gallo-romaine.
Que... Un latache faisait penser à de la fourrure. Alors, je n'en ai pas bu depuis. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fourrure? Et j'ai trouvé dans un texte de 1224 une mention de la zibeline, qui est la fourrure la plus chère de l'époque.
Bien sûr, bien sûr.
Et pour désigner un vin de La Rochelle, qui à l'époque était en pleine expansion. Expansion qui allait lui faire perdre ses quartiers de noblesse, parce que je rappelle que la fourrure, c'est aussi un symbole héraldique.
Oui.
Et du coup, elle a perdu sa zibeline en laissant passer l'offensive des vins forts, comme disait
voilà.
Roger Dion, qui allait mettre en valeur les vins plutôt de Bordeaux et de Bourgogne.
Votre zibeline, ça va, elle se porte bien, David? Tout va bien.
Oui, c'est bien. Il y avait une expression là qui était beaucoup moins sensuelle, mais physique. Je ne me rappelle pas exactement la situation. C'était tranchant comme trois lames qui coupent la tonsure d'un moine.
Ça, c'est Picasso, ça.
Alors, ça, c'est vachement acide. Hein.
C'est très, très précis, ça.
Ouais, c'est vrai. Je trouve
et
que
donc,
les images très visuelles...
Il y a
d'autres comparaisons, mais moi, je voudrais qu'on parle du corps aussi, parce que c'est peut-être ça qui fait appel à la sensualité. Alors, justement, on peut parler de terroir et de... Donc, pour moi, il y a une différenciation très claire en termes de contexte entre le vin qu'on boit avec des amis et le vin qu'on boit avec des amants.
Ah oui. Vous avez, vous qui avez, Hélène, une grande expérience en la matière?
J'ai beaucoup d'amis avec qui je bois souvent. Je
vous remercie,
Alain.
Alors,
le format
Zélina,
de la bouteille va être différent. Mais moi, je trouve qu'un Gevrey Chambertin, j'ai envie de le boire avec un ami.
Avec un ami.
Et le
Chambol. Avec tous vos amants ou
avec le mien, Chambol.
Ah oui, Chambol, quoi. Ouais.
Et même dichotomie, je trouve, entre le Pommard et le Volnay.
D'accord.
Pommard, c'est plus un vin droit d'amis et Volnais.
Ça serait bien de codifier les noms en fonction de ça. C'est pas mal. Amis, ouais, copains, amants.
Mais moi, je propose de classer les caves comme ça ou les cartes des vins comme ça.
Bon, très bien.
Avec qui on les boit.
Bah écoutez, c'est très bien. En tout cas, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Azalina. Merci également à vous, merci. Hélène, David et Philippe. Merci également à Charlotte Vitou. Charlotte Vitou qui a préparé cette émission depuis presque maintenant un an. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou sur notre page Facebook Invino. Excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.
Sud Radio Invino.